Nous avons chanté « Remplis-moi de ta vie ». Je suis persuadé que vous avez dû le chanter avec beaucoup de cœur. C'est ce que nous voulons, que notre vie soit remplie du Saint-Esprit. Lorsque nous n'étions pas chrétiens, on le voit dans Éphésiens au chapitre 2 par exemple, lorsque nous n'étions pas chrétiens, la Bible dit de nous que nous étions morts. Vous l'avez lu ça dans la Bible, hein ? Vous étiez morts. La première fois que vous avez lu ce texte, éclairé par le Saint-Esprit, vous avez dit « Oula ! Mais qu'est-ce qu'on était mal, qu'est-ce qu'on était loin de Dieu ?» La Bible est catégorique, vous étiez morts, Éphésiens chapitre 2 verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous lirez la suite et vous verrez que seul Dieu qui est la vie est capable de nous communiquer vraiment sa vie spirituelle. Donc, nous étions morts, pas notre corps mangeait, notre corps se déplaçait, etc. Pas notre âme, nous avions notre caractère, notre personnalité, mais la Bible est catégorique, notre esprit était mort. Et Dieu nous a donné la vie. Mais il se peut que notre négligence, les épreuves, les affaires, etc., etc., peuvent, hélas, amener un chrétien à mourir de nouveau, mais dans le mauvais sens, pas mourir à son péché, mais à mourir. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, on retrouve, hélas, un problème terrible qu'un chrétien qui était mort spirituellement et qui avait retrouvé la vie, se retrouve de nouveau mort. Ça ne vous a pas étonné, ça, dans la parole de Dieu, hein? Pour rappeler ce qu'a dit le père de son fils, le père du fils prodigue. « Mon fils, que voici, était mort. » Et il est revenu à la vie. Apocalypse chapitre 2, donc c'est à une église qui fait des œuvres. Donc vous voyez, on peut être mort et en même temps faire certaines choses. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Donc il n'y a pas que les inconvertis qui sont morts. Il se peut qu'un chrétien se soit laissé aller par tout un tas de choses, je ne vais pas les évoquer ce soir, et qui tout à nouveau, il n'ait plus cette vie. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir cette vie de l'esprit. Pas une vie d'excité, pas une vie humaine, mais que Dieu nous accorde cette grâce de vivre certaines choses avec le Seigneur. Ce matin, je pensais en me réveillant à Paul et Silas, qui ont été vraiment plus que malmenés, tabassés, les vêtements déchirés, enfermés, maltraités, dans cette prison intérieure, dans la nuit noire, dans les ténèbres, pleines de blessures. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. Ils ne priaient pas. Ils chantaient et ils louaient Dieu. Et vous savez comment Dieu, ça lui a plu, parce que Dieu a fait faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ce sont des choses qui ont été écrites pour nous décourager ou pour nous permettre de croire que là où il y a la vie, il se passe certaines choses? Et je crois que c'est ce que nous voulons. Nous avons tous du chemin à faire, nous avons tous des choses à corriger, et nous voyons que même si nous étions morts dans notre péché, alors ce soir, ce n'est pas une réunion d'évangélisation, c'est une réunion d'édification, mais il se peut que nous ne vivions pas certaines choses. Et je crois que vous avez envie que tout à nouveau, nous vivions certaines choses avec le Seigneur. C'est une évidence. Quand on voit Paul et Silas, quand on voit comment ils vont parler de leur épreuve plus tard aux Thessaloniciens, c'est extraordinaire comment Dieu nous donne de l'assurance malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Oui, donc on peut être vivant, et puis tout à fait retrouver, hélas, cette mort, parce que le péché nous a tout à nouveau affectés, etc. D'ailleurs, Paul dit aux Éphésiens, mais relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, nous pouvons nous faire piéger. Alors que ce soit l'occasion d'entendre, comme on l'a chanté si bien, une parole de Dieu qui va nous aider à aller plus loin avec lui. Car n'oubliez pas que Dieu vous connaît. Est-ce que Dieu vous connaît bien? Ah oui, ça vous rassure? Ah oui, ça vous rassure, c'est extrêmement encourageant de savoir que Dieu sait, et comme il est un divin pédagogue, il saura nous amener, peut-être que quelqu'un n'est pas encore chrétien, et que vous allez être amené à la croix, et là vos yeux vont s'ouvrir, et vous allez accepter cette vie. Peut-être que vous êtes un chrétien qui avait cette mort, qui avait eu la vie, et qui est en train de prendre conscience que tout à nouveau, vous avez besoin de faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Alors la mort, pour donner quelques idées, la mort, vous savez comment elle est venue? Vous le savez comment elle est venue. La Bible est catégorique. Adam et Ève ont cédé aux paroles de l'ennemi. Car quand on réfléchit bien, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, ils ont obéi à la parole de Satan. J'abrège, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et le résultat, c'est que la mort physique est entrée dans le monde. La mort spirituelle. Est-ce qu'ils sont morts physiquement, de suite? Est-ce qu'ils sont morts de suite? Non. Par contre, spirituellement, ils sont morts de suite. Ils sont morts après, physiquement, mais c'est surtout la mort spirituelle qui est de suite entrée dans le monde parce qu'ils ont péché. Donc, ils sont morts spirituellement. La preuve, c'est que de suite, ils ont eu peur. Et dès qu'il y a ces sentiments qui ne sont pas spirituels qui viennent, on voit les conséquences de la mort. Donc, par ricochet, la mort s'est installée chez tous les hommes. Vous connaissez la suite. Et la mort nous sépare de Dieu. La mort physique nous sépare du corps, mais la mort spirituelle nous sépare de Dieu. Je veux abréger, d'accord, hein? Bon, vous étiez morts, on l'a lu, dans vos offenses et dans vos péchés. Je m'interroge par rapport à cette vie que le Seigneur veut nous donner. Il se pourrait ce soir que quelqu'un ait envie d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Parce qu'on chante des cantiques, j'ai soif de ta présence, bon, ça peut être un chant. Mais je ne serais pas étonné que ce soir, plusieurs parmi vous aient vraiment envie d'aller plus loin avec Dieu. De découvrir cette grâce. Hier j'avais le temps, c'était férié. Hier, je méditais Romains 6 et Romains 7. Parce que c'est quand même des chapitres qui vous font parfois réfléchir. Et on voit que dans... Je résume, hein. Mais on voit dans Romains 6 qu'il y a la délivrance du péché. Paul explique que lorsqu'on se tourne vers Dieu, on est délivré du péché. Mais dans Romains 7, on voit une chose qui nous étonne, c'est qu'on est délivré de la loi, parce qu'on ne peut pas obéir à la loi. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet, parce que pour certains, ça risque d'être compliqué. Mais Paul réalise à un moment donné qu'il a besoin de faire une expérience avec Dieu. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu, ou grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il est en train de réaliser qu'il doit être délivré de certaines choses pour découvrir une certaine vie. Eh bien, mes frères et sœurs, ce que je voudrais ce soir vous expliquer, c'est que nous avons besoin uniquement de la grâce de Dieu pour nous amener beaucoup plus loin avec lui. On est né dans le péché. Ce n'est pas la peine de faire les beaux, tout ce qu'on veut. David a dit ceci, « Je suis né dans l'iniquité ». Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc David avait très bien compris que le péché a atteint tous les hommes, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, quelle que soit notre religion, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne sert strictement à rien, nous sommes nés dans le péché. Ça ne veut pas dire que la conception d'un enfant soit péché, mais que la nature de l'homme est pécheresse. Parce que là aussi on a dit des choses... Moi, j'ai entendu de ces trucs sur la conception, sur les relations sexuelles. Ça n'a complètement, complètement ridicule. C'est la nature de l'homme qui naît dans le péché. Alors, nous, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus-Christ manifester sa vie. C'est ça que nous voulons voir. Dans l'Église, dans nos familles, dans nos maisons. C'est ce que nous voulons voir. Alors, vous savez que lorsque Jésus était sur la terre, il a commis trois résurrections. Vous rappelez, est-ce que quelqu'un peut me les citer, les résurrections que Jésus a commises? Lazare, oui. La belle fille de Naïm, de la vie de la fille, la fille de Naïm, oui. Et après, là? Et la petite fille de Naïm, c'est ça? On y vient. Alors la jeune fille de 12 ans qui est morte, on va lire dans Luc 8, allez on va y aller, on va faire les choses dans l'ordre. Ce soir vous allez me donner deux petites heures, s'il vous plaît. Luc chapitre 8. Cette petite fille, elle avait 12 ans, est-ce que vous vous rendez compte? 12 ans. Évangile de Luc. Verset 41. Il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, sœur, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Un peu plus loin, ou un petit peu avant, on a l'autre résurrection, le fils de la veuve de Naïm, dans Luc au chapitre 7 et au verset 11. On va le lire pour vous expliquer comment Jésus s'y est pris à chaque résurrection. C'est important. Parce que pour que nous revenions à la vie, Dieu va s'y prendre d'une de ces façons-là. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Moi, qu'est-ce que j'aurais payé pour voir ce reportage, non ? Vous n'aurez pas aimé le voir, ce reportage aux infos, hein? Quelle affaire! Vous croyez que c'est vrai, cette affaire? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Jésus a croisé trois morts dans sa vie. Et les trois morts, il les a ressuscités. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Puisqu'il est la vie. Il donne la vie. Il est vraiment la vie. Parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent que Jésus, il est la vie, comme les plantes ont la vie, comme les animaux ont la vie. Non. Il donne la vie. Il est le créateur de la vie. Est-ce que vous comprenez? Il est la résurrection. Alors, nous voyons cette jeune fille qui a 12 ans, qui vient juste de mourir. Il y a ce jeune homme qui est mort peut-être il y a 48 heures. Il y a Lazare qui va être ressuscité, qui lui est en état de putréfaction, qui est mort depuis 4 jours, qui est enterré depuis 4 jours. Bon, quand Jésus arrive, cette petite, elle vient juste de mourir. Bon, on pourrait croire qu'elle dort. Oui, est-ce que vous faites une différence entre la mort de cette petite, qui a 12 ans, qui peut être encore dans sa petite robe, et la mort de Lazare, qui est là, dans son linceul? Est-ce que vous faites une différence au niveau de la mort? Est-ce qu'ils sont morts tous les deux? Oui, non mais, je veux que nous comprenions bien quelque chose. C'est que pour nous, on est capable de classer les gens. Oh, il n'est pas trop mort celui-là. Ce chrétien, il n'est pas trop mort. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais quand même, bon, elle est morte. Elle est aussi morte que Lazare. Même peut-être elle est encore toute rose. Si elle vient de mourir, s'il y a une heure et qu'elle est morte. Vous comprenez? Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. Quand on est mort, on est mort. Quand spirituellement, on est mort, on est mort. Quand un chrétien, il est mort, il est mort. Des fois, nous, moi j'ai entendu des chrétiens dire, oui, celui-là, tu vois, bon, il n'est peut-être pas comme nous, mais quand on voit les œuvres qu'il fait, vraiment, c'est un bon chrétien. Écoutez-moi, quand quelqu'un est mort, il est mort. Et on l'a lu dans l'Apocalypse, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, il faut comprendre ces choses. Le jeune homme aussi, on vient de le lire, bon, on a pris les deux textes les moins connus, le jeune homme aussi, il est mort, il est dans son cercueil, on le voit. Il n'y a pas de différence, que ce soit le jeune homme, que ce soit la petite fille, que ce soit Lazare, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de ressusciter. C'est peut-être le cas ce soir pour plusieurs d'entre nous. Nous avons peut-être besoin, spirituellement, d'une résurrection. Car qu'est-ce qu'on peut ressusciter? Les morts. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Pour que quelqu'un puisse avoir la vie, il faut d'abord qu'il se reconnaisse comme étant mort. Pourquoi tant de pécheurs ne se convertissent pas? Mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont morts. Quand vous leur dites, mais vous avez besoin de vous convertir, ils disent, non, je n'ai pas besoin, je suis chrétien. je crois en Dieu. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était mort, on n'a pas besoin de ressusciter. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'acceptent pas Jésus-Christ, parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont morts. Le Saint-Esprit ne les éclaire pas, le Saint-Esprit ne les amène pas à cette conviction de péché, dont ils vous disent, mais non, ça va, moi j'ai ma religion, on entend, vous l'avez jamais entendu, mais moi j'ai ma religion, c'est bon. Moi j'ai été baptisé, même des pentecôtistes, hein. Je ne parle pas des gens qui ont été baptisés petits, moi j'ai été baptisé, j'avais 6 mois, je veux dire, mais il y a des gens qui vous disent, mais moi j'ai été baptisé, j'avais 16 ans, j'ai pris le baptême, pourquoi vous avez pris le baptême? Oh, j'ai pris le baptême parce qu'on m'a demandé de prendre le baptême. Comment vous vous êtes converti? Ah ben, j'ai pris le baptême, il n'y a pas eu de conversion. Mais voyez, les gens ne sont pas amenés à la vie parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont morts. C'est un vrai problème que nous avons même dans nos églises, croyez-moi. Et Dieu ne sauvera pas quelqu'un qui ne se reconnaît pas pécheur. Si on ne se reconnaît pas pécheur, il est hors de question qu'on demande la vie du Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à la repentance et à la nouvelle naissance. Nous, on aimerait que tout le monde arrive à la nouvelle naissance. Il y a même des gens qui pleurent sur leur péché, mais ils n'arrivent jamais à la conversion. Ils n'arrivent jamais à la nouvelle naissance, parce qu'ils n'en voient pas la nécessité. Et des fois, on dit, jamais, il faut vous convertir. Oui, mais de quoi? Pourquoi? Croyez-moi, il vaut mieux prier pour que les gens soient convaincus de péché. Eux, après, ils verront la nécessité de passer par la nouvelle naissance. Vous croyez toujours que Jésus veut bénir, que Jésus veut sauver. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que vous croyez qu'il change le Seigneur Jésus? Ou est-ce que vous croyez qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Oui, Dieu veut bénir, Dieu veut sauver. La petite fille, elle venait tout juste de mourir, mais croyez-moi, elle avait besoin de la puissance de résurrection pour revenir à la vie. Lazare, lui, c'est évident, lui, ses sœurs vont dire, il sent. Donc déjà, ça donne une idée de ce que certaines doivent être amenées à vivre pour comprendre. Il y a des gens, croyez-moi, il faut qu'ils tombent bien bas pour demander l'aide de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est triste. Des fois, on se demande comment quelqu'un va pouvoir se convertir. Eh bien, croyez-moi, il faut qu'un excusez-moi l'expression, mais il faut que ça commence à sentir mauvais. Pour que la personne commence à dire, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Paul, je faisais allusion à Romains chapitre 7. Paul dit, mais misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il est conscient qu'il a besoin de faire une nouvelle expérience avec Dieu. Mais moi, c'est mon cas, je ne sais pas vous, mais je ressens qu'on a besoin de faire une nouvelle expérience avec Dieu. Alors, la question que je vous pose, est-ce que l'on peut se ressusciter soi-même? Non, mais c'est important, parce qu'il y a des gens, ils font des efforts pas possibles. Qu'est-ce qu'on peut demander à un mort? Qu'est-ce qu'on peut demander à un mort? Ben rien. On ne peut rien demander à un mort. On peut les embaumer. Non mais, je suis très sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la mort? Moi j'étais dans un cimetière, dans le Tarn. Vous savez qu'il y a la Crouzette, c'est un cimetière magnifique. J'ai dit, mais presque, on languit presque de mourir pour être dans ces belles tombes, tellement c'est magnifique. Je plaisante. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la mort? Il y a des cimetières, c'est magnifique. Moi, j'étais dans des cimetières en Polynésie. C'est extraordinaire. C'est magnifique, tellement c'est fleuri, tellement c'est beau, tellement c'est arrangé. Bon, mais les gens dessous, ils sont quand même morts. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire ce qu'on veut avec la mort. On peut l'abellir, on peut même maquiller les morts. Il y a des gens aujourd'hui qui, avant de présenter des défunts à la famille, ils vont maquiller les morts pour qu'ils soient plus jolis, etc. Bon, ne me faites pas argumenter là-dessus, mais vous comprenez que, bon, on peut maquiller un mort tant qu'on veut, il est quand même toujours mort. On peut mettre des fleurs tant qu'on veut, c'est toujours la mort. Et les hommes, ils peuvent faire et embellir tant qu'ils voudront, la mort, c'est la mort. Et quand Jésus intervient, lui, il peut mettre sa vie, lui, il peut mettre la grâce. Ce soir, vous pouvez vous attendre à la grâce de Dieu. Si vous croyez que Jésus est au milieu de vous, au milieu de nous, vous pouvez être sûr que le Seigneur peut faire quelque chose. Seul Jésus peut faire quelque chose. Ce n'est pas notre religion évangélique. Des fois, on me dit, mais si je deviens évangélique, est-ce que ça sera mieux? Je dis, mais non, mais non. n'est pas une question d'être évangélique. Ce qui est important, c'est de découvrir la grâce de Jésus-Christ. Le salut, c'est un acte de grâce qui nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons dans ces trois résurrections que Jésus se tient là devant ces personnes et qu'il va amener la bénédiction. Il n'y a que lui qui peut donner la vie. C'est important de le dire. Parce que vous pouvez recevoir la vie maintenant, mais vous pouvez tout à l'heure, devant dans votre chambre, dire « Seigneur Jésus, je te prie de me donner ta vie ». Est-ce qu'il peut le faire dans votre chambre tout à l'heure? Ah oui, la religion, elle peut rien. Et vous savez, il faut quand même le dire, parce que quand même, il y a des religions où on vous dit qu'en dehors de l'Église, pas de salut. Ça, c'est très, 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 très grave. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Il l'a dit « Je suis la vie ». Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui a tout créé? Peut-être que vous ne le croyez pas, mais c'est écrit dans la Bible. Jésus, il ne pouvait pas mentir, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il donne la vie. C'est pour ça qu'il faut que Jésus soit vraiment devant nous. Alors, ces trois morts, ils ont été profondément bénis, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons être bénis. Nous voulons cette grâce ce soir sur notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être touché par Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, ce soir, qui dit « Mais oui, je l'ai été il y a des années, mais j'ai beaucoup perdu. Et ce soir, je crois que Jésus est capable de me toucher. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être touché par Dieu? Moi, je lève la main aussi. Moi, j'aimerais être touché vraiment par la grâce de Dieu. Lorsqu'il s'est présenté devant la tombe de Lazare, bon, on ne lit pas l'histoire de Lazare, vous la connaissez par cœur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» C'est écrit. Il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Donc, Jésus, par sa foi, par sa puissance, peut faire sortir quelqu'un du tombeau. Comment il a fait pour la jeune fille? On y revient, la jeune fille. Luc, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, elle était morte pareil, d'accord, hein? Comment il lui a parlé? Parce que c'est important ça, parce que n'oubliez pas que le Seigneur va devoir vous parler aussi, va me parler aussi. Est-ce que le Seigneur sait comment il doit vous parler? Eh oui, c'est important. C'est important que vous soyez sensible à cela au moins, que vous attendiez à ce que le Seigneur vous parle. Ah, il a crié fort devant Lazare, mais regardez à la petite fille. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 8, hein, 54, il l'a saisi par la main. Bon, ça, il ne l'a pas fait avec Lazare. Et il dit d'une voix forte. Pourquoi? Parce qu'il fallait la même puissance. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était morte. Elle n'était pas un peu morte. Et Lazare, beaucoup mort. Ils étaient tous les deux bien morts. Et pour ressusciter la petite fille et pour ressusciter Lazare, il fallait exactement la même puissance pour sauver un pécheur. Qu'un pêcheur soit plus sophistiqué. Il y a des gens, vous savez, on les voit arriver, ils sont là avec leur alcoolisme, complètement débraillés. On dit, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il a besoin? Il en a besoin. Puis on voit des gens plus sophistiqués, plus clean. Oh, mais ils sont morts pareil. Non, mais nous, on est capable de classer les gens, les rangs sociaux, etc. Mais quelqu'un qui est mort, il est mort. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit bien sapé ou pas, quelqu'un qui est mort, il est mort. Et il faut la même puissance. Pour sauver un pécheur, il faut la même puissance. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et dimanche, Dieu voulant, j'ai vraiment à cœur de faire une prédication sur la croix. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'assistent qu'au culte, et donc qui n'entendent pas, qui ne réentendent pas suffisamment ce qu'est vraiment la puissance du calvaire. Et croyez-moi, priez pour moi pour dimanche, parce que certains chrétiens, je suis convaincu, ne peuvent être touchés, échangés, que par la prédication de la croix. Ça vous étonne peut-être, mais moi je crois que ce soit pour les pécheurs ou que ce soit pour les chrétiens, nous sommes changés par la puissance de la prédication de la croix. Pour sauver un pécheur, il faut la même puissance, le sacrifice de Jésus. Pour ressusciter un mort, qu'il soit mort depuis trois quarts d'heure ou qu'il soit mort depuis trois mois, il faut la même puissance. Jésus est tout puissant. Quand il va ressusciter les morts à l'enlèvement de l'Église, bon, c'est quand même une grosse affaire là, non? C'est quand même un gros travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un gros travail, la résurrection des morts? Moi, je trouve que c'est quand même du travail. Est-ce qu'il n'y a qu'un Dieu tout-puissant qui peut faire cela? Vous comprenez bien que ce soir, il n'est pas dérangé pour vous bénir. Mais c'est devant la croix que nous comprenons la révélation. C'est devant la croix. Quand on voit la croix, ce que Jésus a vécu au calvaire, la façon dont il a souffert de Gethsémané à au calvaire et toute sa vie. Mais quand on voit comment il a souffert, on se rend compte quelle est la grandeur du péché. Et Blaise de Pascal, un de nos philosophes, a écrit un truc que j'ai lu. La grandeur de la chute se mesure par la grandeur du remède qu'il a fallu. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que quand on voit le sacrifice de Jésus-Christ au calvaire, on a une idée du péché dans lequel nous étions embourbés. Parce que quelque chose, quelque part, c'est proportionnel. Nous nous rendons compte vraiment dans quelle misère nous étions. Regardez la croix, regardez l'agonie de Jésus-Christ et vous verrez combien est grande la perdition dans laquelle nous étions. Regardez Jésus, regardez les ténèbres qu'il y a au calvaire et vous verrez combien nous étions dans les ténèbres. Regardez son œuvre et vous verrez combien nous avions besoin d'être sauvés. Oui, vous connaissez un des cris de Jésus sur le bois de la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parfois je me pose la question, les gens qui sont en enfer, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas exactement dans le même état? Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été soucieux des choses spirituelles? Parce que on le voit, on l'a vu il y a 15 jours, quand le mauvais riche, il est là, il se souvient de certaines choses, donc on voit bien qu'il y a une mémoire qui reste lorsque les gens sont en enfer. Mais je me demande, si en enfer, il n'y a pas ce même cri, cette même douleur, pourquoi n'ai-je pas été sensible aux choses spirituelles? Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que ce n'est pas écrit non plus, mais ça m'étonnerait que ça se passe pas ainsi. Donc Jésus n'a pas agi de la même manière avec les trois, mais il fallait la même puissance. Dans la jeune fille, il lui a pris la main. Alors il est dit, vous l'avez lu, hein? Mais c'est important, parce que moi je ne suis pas intéressé par la petite fille, par Lazare, ou par le jeune homme, je suis intéressé par nous. Donc la petite fille, qu'est-ce qu'il fait? Il la saisit par la main et lui dit d'une voix forte, « Lève-toi ». La voix était forte, mais on peut soupçonner que le geste était plein de tendresse. Il ne lui a pas écrasé la main pour dire, tiens, voir si elle est bien morte. Non, il l'a pris par la main, ça devait être plein de tendresse. Vous le voyez comme moi? Moi, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que c'est peut-être de cette façon que Jésus va vous parler, va vous toucher. La voix va être forte parce que vous avez besoin, nous avons besoin d'une parole peut-être forte, une parole de Dieu qui nous réveille, qui nous montre sa puissance, mais en même temps, peut-être que nous avons besoin de tendresse. Nous prendre par la main. C'est bien, ça vous est jamais arrivé de prendre quelqu'un par la main? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, hein? De prendre un enfant par la main, etc., pour le rassurer. C'est important. On a besoin, des fois, je me rappelle, moi, quand Maëva, elle était petite, qu'on partait à l'école, des fois, elle se promenait à 3 ou 4 mètres, puis elle entendait un chien aboyer, toute seule, elle venait plat, elle me prenait la main, ou je lui prenais la main. Ça nous parle de tendresse. Le Seigneur, il sait comment vous parler. Moi, je ne sais pas comment vous parler, peut-être que je vais être dur, alors que vous avez besoin de douceur, etc. Mais le Seigneur, il sait comment vous parler. Et si vous lui dites, Seigneur, je te prie de me parler, il vous parlera. Le Seigneur, il le sait. Est-ce que ça vous rassure de savoir que Dieu veut peut-être vous prendre par la main? Vous dites, tiens, on va s'asseoir. C'est important, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il sait comment vous parler. Il vous connaît, peut-être que vous êtes une femme et vous êtes peut-être plus sensible, plus émotive, etc. Je ne sais rien, on n'a pas tous la même sensibilité. Mais Dieu, il sait exactement comment vous parler. C'est très, très important. Est-ce que Jésus savait comment parler à la femme adultère? Est-ce que Jésus... Vous avez vu comment les religieux savaient lui parler à la femme adultère? Vous avez vu comment ils ont su lui parler? Quand Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Mais peut-être qu'on a besoin d'une parole comme ça, c'est peut-être va et ne pêche plus. Est-ce que vous acceptez que Jésus peut-être dise à quelqu'un ce soir, va et ne pêche plus, va et ne doute plus, va et ne t'inquiète plus? Seigneur, il le sait. Ce matin, moi, je dis à quelqu'un, mais arrêtez de vous inquiéter. J'avais le sentiment, d'ailleurs, je lui ai pris la main à ce frère, je lui ai mis la main sur son bras, et j'ai dit, mes frères, ne vous inquiétez plus. Je pense que c'était de cette façon-là qu'il fallait que je lui parle. Peut-être que à un autre, je lui aurais parlé différemment, et ainsi de suite. Mais moi, je peux me tromper. Mais si vous vous tenez dans la présence de Dieu, le Seigneur saura vous parler. il parle, il peut mettre sa main. Regardez comment il s'est adressé à Pierre après son reniement. Il est juste dit qu'il l'a regardé. Il s'est retourné et il a regardé Pierre. Et ça suffit pour que Pierre pleure et pour que Pierre soit restauré. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose. Le regard du Seigneur. La main du Seigneur qui se pose sur cette jeune fille. Quelle grâce! Quelle grâce! Dans le deuxième cas, Luc 7, qu'est-ce qui s'est passé? Le cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus a fait? Alors, verset 14, Luc 7, 14. C'est important parce qu'il faut que vous sachiez que le Seigneur saura comment vous toucher. Luc 7, 14. On a souvent entendu, « Oh, ce pasteur, il ne sait pas me parler, il a été dur envers moi. » Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous l'avez dit de moi, ça? Est-ce que vous l'avez dit de moi? Je veux tout savoir. Hein? Est-ce que ça peut arriver? Mais oui, ça peut arriver qu'on soit très maladroit. Mais là, vous avez la délicatesse et la pédagogie du Seigneur Jésus-Christ. Dans le deuxième cas, qu'est-ce que Jésus fait? Il touche le cercueil. Il toucha le cercueil. Le cercueil, donc, enfermait ce jeune homme. C'était comme une prison dans laquelle il était enfermé. Moi, je crois que certains chrétiens sont vraiment enfermés. Franchement, sans vouloir être pessimiste, prisonniers. Combien de chrétiens sont morts tout à nouveau, enfermés, ils ont peur, oh, ce que les autres pensent, etc. Est-ce que ça peut arriver de se faire avoir? Est-ce que ça peut arriver? Même si on a de la personnalité, de se faire avoir, est-ce que ça peut arriver d'être prisonnier des autres, prisonnier de notre sale caractère? Quand on est chrétien, monsieur, on a un bon caractère. Ben, enfin, imaginons que, est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien ait un sale caractère? Parce qu'il n'a pas pris la victoire. Ben oui, c'est une espèce de prison, ça, dans laquelle on peut être enfermé, prisonnier de nos idées reçues. C'est pas une prison, ça, les idées reçues. Quand on croit que la religion peut sauver, vous croyez pas qu'on est enfermé dans une prison? Franchement, vous croyez pas que c'est une prison, la religion? Vous me répondez pas. Mais c'est une prison. Et je peux vous dire que Jésus a besoin de toucher notre prison, prisonnier de notre pseudo-sagesse. Il y a des gens qui se croient sages. Je vais donner un exemple inutile. Il y a des gens qui se croient sages, il y a des gens qui se croient intelligents, plus intelligents que Dieu. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans une mort, ils ne s'en rendent même pas compte, même si c'est plein de fleurs et plein de marbre poli. Ils sont enfermés. Prisonniers de nos ambitions, prisonniers de notre désobéissance. Moi, je me souviens, un jour, j'ai parlé à quelqu'un du Seigneur, il me dit, mais moi, quand je vais le voir, ton Seigneur, eh bien, il va en prendre plein la tête, et je vous assure que j'utilise des mots très, 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 très corrects. Je dis, mon pauvre, quand tu vas passer devant Dieu, tu vas ravaler tes paroles. Ça s'est terminé comme ça. Combien de gens sont enfermés dans un cercueil? Et on a des exemples tous plus ou moins graves. Prisonniers de soi-même, de ses concepts, etc. Que de prison. Alors, est-ce que Jésus peut toucher un cercueil? Est-ce que Jésus peut... Oui. Quelle affaire, mais quelle histoire! Quand vous savez que ça s'est vraiment passé, vous savez que ça peut se repasser ce soir. Comment il va agir? Il faudra peut-être qu'il touche certaines choses. Il a touché le cercueil. Touché le cercueil, il n'était pas obligé. Est-ce que Jésus pouvait ressusciter cet homme sans toucher le cercueil? Mais bien sûr, vous demanderez à Lazare. Hein. Mais peut-être que pour agir dans notre vie, il devra toucher certaines choses. Vous savez, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il peut toucher dans une vie. Est-ce que Dieu peut toucher dans notre santé pour nous faire réfléchir? Est-ce que vous acceptez cette idée que le Seigneur puisse toucher notre santé? Ou est-ce que ça dépend que de la pollution ou que de ce que l'on mange, etc. Est-ce que vous croyez que Dieu peut toucher notre santé? Est-ce que Dieu peut toucher notre salaire? Est-ce qu'on peut avoir un problème financier? Est-ce que ça peut arriver un problème financier? Combien de gens se sont tournés vers Dieu parce qu'ils avaient un problème financier? Moi, j'ai connu une voyante, qui était vraiment dans les ténèbres, mais finie. Elle a eu un problème financier grave, et c'est ce problème financier qui l'a amenée à crier vers Dieu. Et elle a fait une expérience des plus prodigieuses, je vous assure, j'ai été témoin de cette affaire. Et Dieu avait touché ce point faible dans sa vie. Est-ce que Dieu peut toucher la position sociale de quelqu'un? Etc. Mais oui, il a touché le cercueil. Faites-lui confiance. Dites, il ne va pas vous blesser pour vous blesser. Mais vous pouvez dire, Seigneur, touche-me dans ma vie. Ce qui a besoin d'être touché. Est-ce que Dieu peut toucher à vos amis? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec des amis? Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, ça peut arriver. Vous le savez, ça peut arriver. Afin que quelqu'un se tourne vers lui, Dieu sait comment vous toucher. Faites-lui confiance. Dites-lui, Seigneur, touche-moi. touche-moi, Seigneur. Touche-moi, dites-lui, demandez-lui, il le fera. Il sait comment toucher la main de quelqu'un, il sait comment toucher un cercueil. L'important, c'est qu'il soit là. L'important, c'est que vous réalisiez qu'il est là lorsque vous êtes seul dans votre chambre. Il l'a promis. Quelqu'un me disait ce matin, voilà, par rapport au pardon, parler du pardon. Et le gars, il me dit, voilà, moi, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Et j'ai dit, pourquoi ? Parce que je ne le ressens pas. J'ai dit, mais il n'y a pas besoin de le ressentir. Vous voyez comment les gens sont sentimentaux. Il me dit, mais j'ai pas besoin de le ressentir. Je dis, mais non. Vous avez vraiment demandé pardon à Dieu? Il me dit, oui, j'ai vraiment demandé pardon. Eh bien, Dieu vous a pardonné. Est-ce que quand on demande pardon, Dieu pardonne? Vous voyez, et lui, il attendait, ça fait quelques années, qu'il attend des années. Pour vous dire que les gens ne lisent pas la Bible. Parce que Jésus nous a jamais demandé de sentir. Jésus nous a demandé de croire. Et cet homme, il a besoin d'être touché au niveau justement de sa foi profonde, afin qu'il ne dépende pas de ses émotions. Dieu sait comment nous toucher. Dans le troisième cas le plus connu, quand on voit l'exemple de Lazare, il nous est dit que Jésus a pleuré devant le cercueil, devant le tombeau de Lazare. Ça fait quand même réfléchir cette affaire. Pourtant, est-ce qu'il savait qu'il allait le ressusciter? Oui, mais moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Jésus a pleuré, il nous est dit qu'il a frémi. C'est écrit qu'il a frémi et qu'il a crié. Alors, il y a des situations où le Seigneur, il pleure peut-être pas, mais il est à la porte, et il ne peut pas rentrer. Il y a de quoi pleurer, oui ou non? Il y a des situations où le Seigneur n'arrive pas à nous atteindre parce qu'on est sourd, parce qu'on n'en fait qu'à notre tête, parce qu'on est là, enfermé. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires sur la résurrection de Lazare. Normalement, d'après ce qui est dit et enseigné par tous les théologiens, c'est que Lazare était dans un tombeau, il y avait une trentaine de marches pour atteindre le tombeau. Et donc, il était très loin, alors qu'il était, vous savez, entouré de bandelettes. Et donc, il y a des gens qui sont très loin du Seigneur. Même si le Seigneur, il est là à la porte, il y a des gens qui sont très loin. Ils sont enfermés dans les ténèbres. Vous leur parlez, ils ne vous écoutent même pas. Vous le savez. Il y a des gens, vous leur parlez, ils n'écoutent rien des choses de Dieu. Rien. Vous leur parlez tout d'un coup de quelque chose, vous avez leurs yeux qui s'illuminent. Vous l'avez vécu, ça. Ça fait beaucoup. Réfléchir. Alors, Dieu sait. Dieu savait comment il ressuscitait Lazare. Dieu savait comment ressusciter la petite fille. Dieu savait comment toucher Saul de Tarse. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui se seraient aventurés à aller voir Saul de Tarse pour distribuer un évangile? Vous connaissez Saul de Tarse? Avant sa conversion, c'était quand même un garçon qui respirait le meurtre et la menace. Donc, je pense que les gens devaient dire, Seigneur, bénis-le, agis. Mais Dieu savait comment le toucher. Vous savez, pensez aux gens de votre famille qui sont durs, pénibles. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. S'il n'y a pas besoin de quelqu'un, Dieu le fera. Faites-lui confiance. Dieu savait comment faire tomber Saul de Tarse de son cheval pour lui faire comprendre certaines choses. Et pour lui poser la question, pourquoi me persécutes-tu? Alors peut-être vous allez dire, ah ben moi je ne suis pas là, moi je ne persécute pas l'Église. Mais peut-être que Dieu pourrait nous poser la question, mais pourquoi m'ignores-tu? Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, mais laissez-moi vous dire, ça fait 30 ans que je sers Dieu, et je commence à avoir vu beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui sont complètement indifférents aux choses de Dieu. Ils viennent à l'église en pensant qu'en venant à l'église, Dieu sera de leur côté, que s'il leur arrive une tuile, eh bien, quand même ils allaient à l'église. Bon, tout ça c'est de la superficialité, mais Dieu pourrait dire à ces gens, mais pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu attends? Quand Dieu a dit à Saul de Tarse, ça faisait 3 jours cette affaire. 3 jours, vous savez la question que Dieu a posée à Saul? Pourquoi tardes-tu? 3 jours. Il y a des gens, ils écoutent l'évangile depuis 3 mois, 3 ans. Je pense que Dieu pourrait leur dire, tu tardes aussi. Je crois que quand on a été éclairé, il ne faut pas tarder. Quand Dieu nous éclaire, il faut lui donner son cœur. Pourquoi ne me sers-tu pas? Dans combien d'églises Jésus pourrait dire, mais ce soir, j'en suis sûr, à plusieurs parmi nous, mais pourquoi ne me sers-tu pas? Il n'y a que Dieu qui sait comment vous parler. Moi, je me suis tenu devant Dieu, je me suis préparé, je vous donne quelques idées, quelques éléments de réponse, mais Dieu, si vous vous tenez devant lui, saura vous parler. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que Dieu saura s'approcher de vous, vous toucher par la main. Dieu vous connaît, je le répète, Dieu vous connaît. s'il doit toucher votre cercueil, si vous êtes enfermé depuis des mois, depuis des années, dans la crainte, dans la peur du lendemain. Quelqu'un me disait ce matin, mais j'ai peur pour la retraite. Est-ce que vous avez peur pour la retraite? Ou est-ce que vous croyez que Dieu pourvoira? Moi, je vous dis que Dieu pourvoira. Parce qu'il l'a promis. Voyez, il y a des gens qui sont enfermés dans la peur. Alors si ce n'est pas un cercueil, c'est peut-être une grosse pierre, parce que dans l'affaire de Lazare, il y avait quand même un obstacle, et Jésus a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre. Vous voyez, c'est peut-être pas le cercueil, c'est peut-être une pierre, c'est-à-dire quelque chose qui vous empêche d'y voir, c'est peut-être une porte. Quand Jésus a dit, je me tiens à la porte, il peut y avoir quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui peut être un obstacle. Est-ce que quelqu'un peut empêcher une autre personne d'entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien oui, bien sûr. Le royaume, la crainte des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Combien de gens m'ont dit, mais moi, si je viens à l'église, qu'est-ce que vont dire, qu'est-ce que va dire ma famille? Oui, ils sont enfermés dans une crainte. Beaucoup de ces gens qui m'ont dit ça sont morts. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant de mourir. Mais une chose est sûre, on peut être enfermé. Et Dieu ne peut pas agir. Et si nous voulons que Dieu agisse, il faut faire ce qu'il nous demande. Il ne faut pas l'empêcher de s'approcher de nous, il ne faut pas l'empêcher de nous parler. Je crois qu'un regard, ça peut suffire. Il y a des gens qui sont tellement sensibles, comme pour Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, un regard, ils sont là dans la présence de Dieu, ils sont convaincus de l'amour de Dieu, l'amour, le regard de l'amour de Dieu peut leur suffire. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut prier pour moi pour dimanche, parce que je sais que les pécheurs, bien sûr, à plus forte raison, ont besoin de la prédication de la croix, mais les chrétiens ont besoin de cette même croix pour être renouvelés, croyez-moi. Alors, les pécheurs doivent trouver le pardon, mais les chrétiens qui sont morts doivent également repasser par une nouvelle repentance. Peut-être que c'est la parole que Dieu peut dire à quelqu'un ce soir, mais repens-toi, reconvertis-toi, touche ma main, touche mon cercueil. Tu vois comment je suis enfermé, Seigneur, dans mes péchés, dans mes problèmes. Je voudrais que tu me touches, Seigneur. En tous les cas, les trois fois où Jésus a touché un mort, a croisé un mort, eh bien, il l'a ressuscité. Je vous dis, ça ne m'étonne pas. Il n'aurait pas fallu qu'il traverse un cimetière, le Seigneur. Je dis ça, mais je le pense vraiment, parce qu'il est la vie. Vous le croyez qu'il est la vie? Est-ce que quelqu'un a besoin de cette vie? Est-ce que quelqu'un dirait, mais moi, je veux faire une nouvelle expérience? On va fermer les yeux quelques instants. Qui ce soir voudrait expérimenter la grâce de Dieu? Seigneur, touche-moi. Il n'y a que Dieu qui sait. Je vous ai expliqué par ces trois textes comment Jésus s'y est pris. Jésus sait comment vous toucher. Mais s'il veut vous toucher, laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher. Bien sûr, vous allez me dire, mort, il se laisse toucher. C'est vrai. Mais quand on est responsable, on peut refuser. Peut-être quelqu'un dira, moi, j'ai besoin d'être touché tout à nouveau. J'en ai besoin. Je ne vais peut-être pas vivre l'expérience de Paul et Silas à Philippe, mais j'ai besoin d'un attouchement du Jésus. J'ai besoin de retrouver cette vigueur dans la prière, cette ferveur dans la foi. J'ai besoin de retrouver cette confiance. J'ai besoin de vie. De la vie. Il est la vie. Il est le créateur de la vie. Alors, si quelqu'un éprouvait le besoin de venir sur le devant, venez sur le devant. Soyez sérieux, c'est entre vous et Dieu, c'est pas une question de nombre, c'est pas une question de longueur d'appel. C'est une conviction profonde. Ce que je vous ai dit, j'espère que vous avez pris conscience. Que c'est pas pour faire un appel, c'est pas pour prolonger la réunion. Seigneur, tu sais comment me toucher. Tu le sais comment me toucher. C'est pas l'église évangélique qui va me toucher. C'est pas la doctrine qui va me toucher. C'est pas l'enthousiasme d'un pasteur qui va me toucher. C'est toi, Seigneur, qui peux me toucher. C'est ta présence. Et il est au milieu de nous. Et si vous avez besoin d'être touché, peut-être avancez-vous. Il te dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu vous bénira. Il ne peut pas ne pas vous bénir. Si vous ouvrez la porte, si vous enlevez la pierre, si vous faites ce qu'il vous demande, un regard, un seul regard, ou sa main puissante, ou sa voix puissante, vous bénira. Que son nom soit glorifié. Amen.